C'est maintenant le moment de remettre le prix Henri Corbin. Voilà, donc ce prix Henri Corbin a été créé par l'association juste l'année dernière et sera remis donc cette année et ensuite tous les 2 ans. Il vise à récompenser un travail de niveau doctoral ou une monographie publiée portant sur l'un des champs suivants. Donc, premièrement, une œuvre, l'œuvre, les archives ou les correspondances de Corbin, les échanges et l'influence de ses idées à l'époque contemporaine. Deuxièmement, la philosophie islamique et la mystique musulmane de l'époque classique, c'est-à-dire le développement de la philosophie en islam, de la pensée chiite jusqu'à la période moderne, de la mystique musulmane proprement dite dans ses dimensions doctrinales. Ou troisièmement, ce prix pourrait également être décerné à des travaux doctoraux portant sur des champs de la pensée occidentale ayant également attiré l'attention de Henri Corbin, herméneutique, ésotérisme occidental, pensée protestante et orthodoxe, pour autant qu'ils suivent la démarche scientifique en usage en sciences des religions. Alors, un bon nombre de candidatures ont été déposées et examinées par un jury de spécialistes, universitaires et chercheurs au CNRS, donc jury coordonné par Pierre Loury. Le débat final a été délicat et serré. J'en étais témoin. Le jury s'est accordé finalement à accorder le prix à la thèse de M. Maxime Delpierre. La formation de l'avicennisme iranien et l'œuvre de Nassir al-Din Tusi, qui a été soutenue en 2022. Alors, effectivement, M. Maxime Delpierre est un intervenant lors de cette journée, mais c'est une coïncidence. Et donc, nous en profitons pour lui remettre ce prix aujourd'hui. L'association Henri Corbin, l'association des amis donc, de Henri et Stella Corbin, est heureuse de soutenir le travail de ce chercheur.
Merci. Bon, alors, ce que j'aurai à dire sera simple et court. En effet, je dissocie les remerciements puisque ma présence ici n'est pas liée à la remise du prix. Donc, double remerciement à l'association pour l'invitation d'une part, pour la remise du prix d'autre part. Je remercie le jury qui a jugé que ce travail n'était pas tout à fait dénué d'intérêt. Et puis, ajoutons seulement que Avicenne nous apprend que le généreux ne fait rien en vue d'une récompense, mais quand elle tombe, elle est bienvenue.
Voilà, donc Monsieur Maxime Delpierre, nous vous remercions d'être parmi nous. Maxime Delpierre est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de philosophie. Il a enseigné dans des lycées, mais il a aussi donné des cours à l'EPHE et à l'ENS. Et donc, il va nous présenter un exposé qui n'est pas, enfin, qui n'est pas sans rapport avec la thèse, enfin, du moins une partie, un certain chapitre de sa thèse. Merci beaucoup, c'est à vous.
Je crois qu'on ne peut pas se dispenser d'établir le lien qui existe entre la thèse et l'exposé que je vais faire dans quelques instants. Donc, je me contenterai de résumer cela vraiment à très grossier, mais on verra l'intérêt de ce travail peut-être pour la suite. Nous avons étudié le commentaire des Isharat d'Avicenne par Nassir Toussi, étude qui superposait 3 couches de questions. Disons par cercle concentrique croissant. La première concerne le statut et la place des Isharat dans l'œuvre d'Avicenne, dans la mesure où elle a autorisé la distinction entre un avicennisme dit péripatéticien et un avicennisme oriental, et par là suscité l'hypothèse de l'existence d'un avicennisme gnostique ou mystique. C'est cet avicennisme que j'ai poursuivi, si j'ose dire. À un deuxième niveau, ça permettait d'étudier la naissance et la gestation de cette tradition philosophique qu'on appelle avicennisme iranien autour de l'exercice spécifique du commentaire de texte qui s'est focalisé sur les Isharat pendant la période de cristallisation des premiers siècles, disons 12e, 16e. Ce qui laisse penser que l'avicennisme s'est formé plutôt d'ailleurs dans sa dimension d'avicennisme oriental que péripatéticien. Et d'autre part, troisième aspect du travail, Il s'agissait d'étudier un conflit d'interprétation qui s'organisait en tant que stratégie de récupération d'Avicenne entre Fakhreddine Razi d'une part, qui est le théologien acharite réputé, et Nassir Toussi, dont on sait qu'il a été chiite, ismaélien d'abord, nizarite, puis duodécimain ensuite. Donc il y a une querelle d'héritage autour d'Avicenne quant à savoir qui va s'en emparer. Pour aller à l'essentiel du contenu de cette thèse, le mystère des Isharats est que le livre s'achève par une profession de science des mystères et, selon les termes même de Razi, un abrégé de science soufie. La question est donc la suivante, c'est de savoir quel sens il convient de donner à cette fin inédite. Est-ce un supplément contingent de la philosophie, une simple explication descriptive d'un phénomène existant, les phénomènes spirituels, dont on rend raison sans plus? Ou est-ce un complément nécessaire et la fin dernière de la science philosophique? Cette question se redouble par la suivante. Quel sens il convient de donner à l'usage des termes que fait Avicenne, donc des termes, pardon, gnose, rilfan et sagesse supérieure, hikma muta'aliya? Est-ce l'autre nom de la philosophie ou est-ce le nom d'autre chose que la philosophie? Dans les deux cas, nous avons fait le choix d'une interprétation forte selon laquelle Avicenne forme une nouvelle image de la pensée. Il clôt la première époque de la philosophie en islam qui avait nom falsafa pour faire entrer la philosophie dans autre chose qui s'appelle désormais le rilfan comme synthèse de divers courants de pensée spécifiquement musulmans, la philosophie théorique ou falsafa, la théologie rationnelle ou kalam. Les doctrines chiites, qu'elles soient septimènes ou duodécimènes, et le soufisme. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de montrer les soubassements théoriques, parce qu'une fois qu'on a constaté cela, c'est un constat superficiel, nous avons essayé d'exhumer le soubassement théorique qui permet de penser qu'il y a bel et bien un changement de modèle philosophique. Nassir Toussi désigne les raisons de ce changement. La philosophie théorique est dans une impasse, car la raison est insuffisante à procurer la certitude. Elle s'arrête au seuil des deux objets les plus importants de la vie spirituelle, à savoir la connaissance de Dieu et la connaissance de la vie dernière. Et pour cela, nous pensons qu'Avicenne est tellement conscient de cette impasse de la philosophie théorique qu'il livre une théorie des manques constitutifs de la théorie. En cela, la philosophie devient inspirée. Et nous n'hésiterions pas à dire qu'il n'y a plus nulle différence de nature entre le philosophe et le prophète. Pour cela, la théorie de l'âme est décisive. Avicenne, dans cet ouvrage, accentue une pente déjà prise dans ses ouvrages péripatéticiens en accentuant le caractère métaphysique de la psychologie. Et il en a besoin pour marquer davantage la correspondance entre les âmes célestes et les âmes terrestres. Âmes célestes qui deviennent la clé de voûte du système. Pourquoi? Pour une raison évidente, elles font la médiation entre le monde de l'intellect et le monde des corps. Et de là, on comprend l'idée corbinienne selon laquelle la prophétologie avicennienne dépend de son angélologie, dans la mesure où les anges sont ces âmes séparées. La science des mystères tourne exclusivement autour de la question des âmes célestes. C'est l'un des points de rupture majeurs entre le nouvel avicennisme et l'aristotélisme. Voilà où nous conduit la psychologie métaphysique d'Avicenne et pourquoi la métaphysique de l'âme prend une telle importance dans la réorientation qui s'opère dans les Isharats. On part de l'hylémorphisme aristotélicien, la distinction matière-forme. On subvertit cet aristotélisme par le dualisme platonicien. L'âme est immatérielle par soi, elle survit par soi, et les deux substances sont séparées. Et on aboutit à une sorte d'extase néoplatonicienne, où l'âme s'exile de ce corps vers sa patrie céleste. Tout cela étant permis par le dispositif en voie de constitution d'un monde de l'âme intermédiaire, d'une part, et d'autre part, par une spéculation sur l'âme forte, qui termine les Isharats par une méditation sur la nature et les puissances de l'homme parfait. Donc, inutile de préciser davantage pourquoi le dialogue entre nos philosophes et nos soufis est particulièrement déterminante. Et en vertu de ce que j'ai dit de la nouvelle psychologie avicennienne, j'espère qu'on pressent pourquoi la métempsychose devient un enjeu crucial de cette conversation entre les philosophes et les soufis. Bien, donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je procéderai en quatre moments, en commençant par le soubassement théorique que l'on trouve chez Avicenne, qui est toujours l'arrière, qui est l'arrière-plan, le fond sur lequel la conversation se tient. Ensuite, nous verrons la correspondance entre Nassir Toussi et Sadreddin Konawi à proprement parler, et nous finirons par étudier leurs positions respectives dans le reste de leur œuvre respective. Commençons par la question de le traitement que fait subir Avicenne à la question de la métempsycose dans son œuvre. Elle est assez documentée, il y a à peu près, je veux dire, je me sers que de choses bien connues, mais qu'il est bon de rappeler pour comprendre la suite. Avicenne, il faut bien distinguer trois choses chez Avicenne. Il y a trois pans de la doctrine qui se disputent la place et qui ne sont pas toujours compatibles. Il y a la doctrine psychologique, à proprement parler, la réfutation catégorique de l'existence de la métempsycose. Il y a la restauration de ce qu'on appelle une hypothèse eschatologique, selon laquelle peut-être qu'une forme de métempsycose est permise à un certain type d'homme. Et puis, il y a ce que j'appellerais le mythe gnostique. Avicenne est sensible au mythe de la chute de l'âme dans le monde corporel, et ça détermine toute sa vision du système. Ces deux derniers pans de sa pensée, l'hypothèse eschatologique et le mythe gnostique, évidemment, semblent contredire sa psychologie, où il réfute catégoriquement la métempsycose. C'est ce que nous allons voir. Donc, commençons par ce qui est le plus visible, à savoir la négation de la métempsycose. D'après la doctrine la plus conventionnelle, la plus qu'on trouve dans le Shifa, psychologie du Shifa 5.3, il y a une réfutation en bonne et due forme. Avicenne la réfute pour trois raisons métaphysiques principales. La première, qui est très importante, c'est la postulation métaphysique de base, il n'y a pas de hasard. S'il n'y a pas de hasard, il y a de l'harmonie. S'il y a de l'harmonie, il y a mariage réciproque de l'âme et du corps. C'est la première chose, négation du hasard et postulation d'une harmonie. Deuxième raison, le principe d'individuation. Comment dirais-je, l'appropriation de l'âme à un corps et un seul est la garantie de l'individualité, individualité de la personne, de la conscience, de la vie humaine. Et puis, troisième raison pour laquelle il congédie l'hypothèse de la métempsychose, pardon, c'est qu'il y a une causalité réciproque mais dissymétrique entre l'âme et le corps. L'âme est le principe du corps, lequel n'est que condition d'apparition de l'âme. Donc voilà, disons, pour l'appareil argumentatif de négation de la métempsychose. Selon disons une formule très bien tournée de Guy Monod, l'âme a une destinée doublement unique, unique parce qu'individuelle, unique parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc voici pour la lettre de l'argument. Entrons maintenant dans la doctrine eschatologique. D'une certaine manière, l'hypothèse de la métempsychose ne peut pas avoir cours dans le système avicénien pour une raison très simple, c'est que Avicenne fait de l'âme une substance métaphysique de plein droit. C'est une substance immatérielle par soi, et donc en tant que telle, par nature et par définition, indépendante du corps. Par conséquent, le corps meurt, l'âme survit, et tout est joué. Il n'y a pas imaginé de métempsycose, de passage dans des corps successifs, etc. L'âme peut survivre par soi, point barre. La question était déjà réglée d'avance. C'est ce qui d'ailleurs distingue Avicenne de Farabi, puisque l'âme, pour être immortelle, n'a nul besoin d'agir, de penser. Sa nature la fait déjà tout ce qu'elle est, à savoir immortelle. Cependant, la pensée et les actes en cette vie ont une influence, non pas sur la survie, mais sur ce qui attend l'âme après cette survie, à savoir le bonheur et le malheur. À cet égard, Avicenne distingue plus ou moins quatre types d'hommes. L'homme à la pensée parfaite, qui est aussi l'homme suprêmement heureux et qui est en conjonction perpétuelle avec l'intellect agent. Il y a l'homme de moindre science, mais qui est quand même heureux. Il ne connaît pas tout, mais il connaît ses fondamentaux, si j'ose dire, l'existence de l'être nécessaire, son unicité, la connaissance de la providence, la connaissance des premiers principes de toute chose, cause finale et cause efficiente. Lui, c'est déjà pas mal ce qu'il connaît, mais ça n'est pas encore suffisant pour le bonheur complet. Mais il aura quand même sa part de bonheur. Troisième catégorie, il y a les hommes à la science très insuffisante et qui, eux, avaient les moyens de connaître, mais ne se sont pas servis de ces moyens. Ce sont les hommes d'une pensée déficiente qui, satisfaits d'eux-mêmes, connaissent, ont conscience de la perfection de leur âme, mais ne la recherchent pas. Parce qu'ils s'abandonnent à la félicité. Pardon, pas à la félicité, justement, au contraire, à la facilité. Et eux seront châtiés. Et châtiés éternellement. Et puis, il y a la dernière catégorie qui va nous intéresser tout particulièrement pour la suite, c'est pourquoi j'y insiste. Il y a les tout à fait idiots, si j'ose dire, qui n'ont vraiment rien dans le crâne. Mais eux ne sont pas coupables. Parce que ce n'est pas leur faute. Ils n'avaient pas conscience de la perfection, ils ne pouvaient donc la désirer. Et ne pouvant la désirer, il serait injuste qu'ils en soient châtiés. À cette catégorie d'hommes est promise la paix éternelle, selon les mots d'Avicenne. Notons cependant, progressons, que, en dépit de cette thèse, qui fait quand même une distinction très nette entre les bienheureux savants et les misérables ignorants, Avicenne est obligé de nuancer cette thèse en vertu même de ce qu'on vient de dire, le sort qu'il convient de faire aux idiots. Parce que les idiots, ce sont des gens qui ne perçoivent qu'avec leur âme corporelle. L'âme corporelle ne perçoit qu'avec l'instrument du corps. Problème, après la mort, il n'y a plus de corps. Donc avec quoi percevoir? Avicenne est obligé de trouver un substitut à leur corps manquant. Quel sera ce substitut? Les corps célestes. Par conséquent, la purification des idiots est possible. Comment cela? Leur âme survit et elle connaît un cycle de renaissance dans les cieux, jusqu'à ce qu'il appelle la conjonction béatifique, al-ittisal al-musrid. Cela, d'une certaine manière, a aussi un autre avantage pour lui, c'est que ça met Avicenne en conformité avec l'eschatologie coranique. On a souvent reproché aux philosophes, voire Razali, de refuser la résurrection corporelle. Certes, Avicenne n'admet pas la résurrection corporelle stricto sensu, mais lui trouve un substitut. Il y a moyen d'amener à réexistence, si j'ose dire, les âmes qui ne sont que corporelles. En ce sens, Jean Michaud avait proposé une expression assez intéressante. Chez Avicenne, il y aurait deux humanités et deux destinées. Il y a un au-delà spirituel qui est destiné aux intellectuels purs, et puis il faut faire une place à un au-delà qu'il appelle imaginal et qui est le paradis des idiots. Alors, il faut bien voir ça, c'est quand même très contrariant, en tout cas c'est très paradoxal. Le paradis n'est pas unitif chez Avicenne. Il y a bien deux paradis pour deux catégories d'hommes. Ces deux paradis ne coïncident pas, et même l'un est tenu en un relatif mépris. On sait pourquoi. C'est pourquoi d'ailleurs Jean Michaud propose que on lise, enfin comment dirais-je, il propose l'hypothèse sur laquelle Avicenne n'est pas un philosophe symboliste, il ne propose pas une allégorie de la résurrection corporelle, mais Avicenne propose bien plutôt un mode de lecture rhétorique, c'est-à-dire que, au fond, la métempsycose serait un mythe pédagogique, à vocation pratique, pour dompter les masses, leur faire briller un bonheur illusoire. Alors, pour finir avec cette hypothèse eschatologique, Avicenne en cela se montre assez proche probablement de l'hypothèse porphyrienne de l'okéma, du pneuma comme okéma, de l'esprit subtil comme véhicule corporel, de l'âme corporelle après la mort. C'est une hypothèse, le pneuma, qu'il envisage dans les Isharat. Et cependant, comme Avicenne a un grand mépris de Porphyre, il ne mentionne pas sa source et la mentionne d'autant moins que cette hypothèse de la purification par le pneuma est aussi proposée par Thabit ibn Qurra, qui est un penseur de l'école de Harlan qui est tenu en suspicion. Enfin voilà pour l'eschatologie avicennienne. Troisième pan de sa pensée, on finira par là, pour montrer l'imbrication de choses assez contradictoires dans la théorie, c'est les influences que j'appelle gnostiques au sens le plus large et le plus général qui soit chez Avicenne. Daniel de Smet propose une hypothèse assez intéressante, au fond, selon laquelle Avicenne ferait une interprétation philosophique, rationnelle et anthropologique du mythe du drame cosmique que l'on trouve chez les Ismaéliens et en particulier chez Sigistani. Pourquoi ? Deux philosophies sont concurrentes, se rivalisent quant à la préséance chez Avicenne. Il y a un pan platonicien, néoplatonicien, selon lequel la chute de l'âme est une chute dans les ténèbres, chute dans la matière et forcément un mal en soi. Et puis, il y a au contraire l'optimisme aristotélicien qui voit dans le corps une chance de salut, car le corps est l'instrument du perfectionnement de l'âme. Donc ces deux aspects se disputent la préséance chez Avicenne. Sigistani en a fait quelque chose de cohérent, à savoir il les enferme dans un cercle de l'existence. Il y a la chute, qui est l'orgueil du troisième intellect qui tombe dans la matière, et puis la rédemption, qui va être le mythe de la remontée en se servant de l'instrument du corps comme moyen du salut. Sigistani y joint une donnée traditionnelle et indissociable, à savoir la théorie de la connaissance comme réminiscence. La chute correspond à l'oubli des formes intelligibles premières, et la rédemption et la remontée va correspondre à l'entreprise de ressouvenir. Par ailleurs, Avicenne a laissé un poème qui a été beaucoup commenté, surtout à l'époque ottomane, à savoir la Kassida al-Ayniya, le poème de l'âme, dans lequel poème, trois idées sont portées, à savoir la chute de l'âme dans la matière après sa préexistence dans le monde intelligible, la chute et la remontée selon l'oubli et la réminiscence de l'origine, et la transmigration des âmes dans le voyage du retour vers le monde intelligible. Ce poème, dont l'authenticité n'a jamais été contestée, a cependant fait l'objet de divers commentaires, une trentaine, les uns estimant que ces thèses ne peuvent pas être avicenniennes, les autres oui, mais cependant, comment dirais-je, encore une fois, l'attribution de cet épître à Avicenne n'est pas contestée, et je dirais même que des Ismaéliens taïbites ont profité de cette occasion pour attribuer à nouveau à Avicenne le mythe du drame cosmique, disant, vous voyez, au fond, il est d'accord avec nous, la doctrine des deux faces de l'âme n'est rien d'autre que la traduction de notre doctrine. Voilà pour le contexte théorique chez Avicenne, et on voit comme il y a, disons, trois pans qui entrent en relatif conflit les uns avec les autres. Passons à la correspondance entre Toussy et Konawi, qui a ce fond théorique comme arrière-plan. Pour présenter rapidement nos personnages, il y a trois traits saillants, disons, à retenir de la vie de Toussy. Le premier, c'est que, ayant vécu au XIIIe siècle, il a connu le grand bouleversement de la chute d'Alamout en 1256 et du renversement du califat abbasside, en 1258, et il s'est rallié aux conquérants mongols qui ont pris Bagdad. Deuxième trait saillant, il a été chiite ismaélien avant la chute d'Alamout, et il s'est fait le maître à penser du chiisme duodécimain ensuite. Et troisièmement, on peut estimer que toute son œuvre spirituelle est construite autour de ces trois piliers que sont la philosophie avicennienne, les doctrines chiites, quelle que soit la confession qu'il a embrassée, et le soufisme. Ce n'est pas un hasard si il correspond avec Sadruddin Konyawi, qui est le beau-fils d'Ibn Arabi, qui vient juste de périr à l'époque où Toussy rédige son commentaire des Isharat d'Avicenne. Et nos deux hommes en sont au crépuscule de leur vie, donc leur système est à peu près définitif à l'un à l'un et à l'autre, puisqu'ils vont mourir rigoureusement l'un et l'autre la même année, en 1274, un an après avoir correspondu. Et alors, dans sa lettre à Toussy, Conaoui adresse 11 questions, si je me souviens bien, dont la cinquième porte spécifiquement sur l'existence, la réalité de l'âme et la nature de ses rapports au corps. Et alors, très vite, la question de la métempsychose vient sur la table. Je lis, c'est la deuxième question qu'il pose après celle de la réalité et de l'existence de l'âme. Quelle est la démonstration que l'âme est séparée, éternelle, qu'elle n'a pas besoin, dans cette condition, alors, nashat, dans cette condition matérielle et en ce monde, et en raison de la part de perfection qui lui a été donnée? Donc, quelle démonstration y a-t-il? Qu'elle n'a pas besoin d'autres générations après celle-ci. Qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi et comment elle gouverne ce corps? Y a-t-il une démonstration de ce qu'elle ne puisse pas gouverner en même temps plusieurs corps et formes? Ou certaines âmes en sont-elles capables? Je passe un peu, car nous en avons trouvé plus d'un, doué d'une âme humaine, s'élever du degré de sa propre âme et monter pour devenir, comme nous avons dit, voire monter encore de plus en plus haut en s'unissant avec les intellects supérieurs à l'intellect agent, jusqu'à les dépasser tous et réaliser la jonction avec le réel des deux manières qu'on a dites, selon une voie qui se caractérise par la série de l'ordre des intermédiaires et selon une voie sans intermédiaire. La question de Conaoui est assez vicieuse parce que par un argument ad hominem, elle place la doctrine philosophique devant sa propre contradiction. Conaoui dit à Toussy, vous les philosophes, vous admettez que l'intellect agent est capable de gouverner l'ensemble des formes et corps du monde de la génération et de la corruption. Alors pourquoi une âme seule ne pourrait-elle pas gouverner l'ensemble des corps et des formes du monde? Pour cela, selon Conaoui, ça correspond à un processus très simple selon lequel l'âme sort de sa particularité individuelle pour s'universaliser. Cela conduit notre mystique à d'autres questions qui sont toutes liées d'ailleurs à la question de la métempsychose, à savoir au fond la question de la préexistence et de l'individuation de l'âme avant son lien au corps, la question de sa survie et de son individuation après la rupture du lien, et le mode de connaissance par réminiscence ou tazakkur. La question qui suit immédiatement le texte que je viens de lire est celle-ci. Est-ce que l'âme connaît toutes les connaissances qui lui apparaissent et lui sont présentes maintenant, mais qu'elle a oubliées à cause de son lien au corps? Ou bien est-ce qu'elle est dépourvue de toute connaissance et de tout attribut hormis sa seule existence simple? Ou bien encore, est-ce qu'elle connaît les universaux et acquiert les particuliers par l'intermédiaire de ses facultés et instruments corporels, ne se ressouvenant des universaux que par là, parce qu'il lui arrive de les oublier lorsqu'elle est en compagnie du corps? La réponse de Toussy est catégorique. Il n'y a pas de métempsychose. Et la réponse s'organise en quatre temps. D'abord, il ne peut pas y avoir de métempsychose parce que la renaissance est un changement. Et il n'y a de changement que sous le régime du temps, c'est-à-dire sous les cieux. Il ne saurait donc y avoir de changement parmi les cieux, qui sont censés être immuables. Deuxième réponse, il est impossible à une âme de gouverner plusieurs corps à la fois. La preuve, qui est tout ce qu'il y a de plus classique, est la conscience de soi. J'ai conscience de moi comme d'un seul moi. Certes, il y a bien des âmes fortes qui agissent sur d'autres, mais ils ne les dirigent pas. D'ailleurs, c'est assez cocasse, mais Toussy compare en cela la prophétie à la magie. C'est comme le fait de jeter le mauvais œil, etc. Et la prophétie fonctionne selon le même principe. Troisième réponse de Toussy, le passage du particulier à l'universel est impossible, sous quelque rapport que ce soit. L'âme ne peut pas devenir autre chose que ce qu'elle est. Elle est particulière, elle le reste. Dans la mesure où elle est immatérielle, elle ne peut pas subir de changement. Donc, particulière elle était, particulière elle reste. Et par ailleurs, le monde, tout le reste du monde, n'est aucunement affecté par l'élévation de l'âme. Et voilà, quatrième et dernier temps, c'est le fondement métaphysique de l'ensemble de ces réponses. Dieu est parfait et même plus que parfait. Par conséquent, il revient à sa perfection d'avoir créé l'âme pour le corps et le corps pour l'âme. C'est un signe de sa bonté. Et par ailleurs, argument de Théodicée assez intéressant, il serait perfide que Dieu renvoie l'âme à un corps après l'en avoir libéré, puisque précisément cette anachorèse spirituelle est le plus beau devenir de l'âme. Donc pourquoi, après tant d'efforts à s'émanciper du corps, la renvoyer dans un corps? Ce serait cruel. Conaoui n'est absolument pas satisfait par ses réponses et écrit une lettre supplémentaire, la Risalat al-Hidayah, dans laquelle il discute à nouveau les réponses de Toussy. Alors, quelles sont les critiques qu'il formule à l'encontre du philosophe? D'abord, métempsychose n'est pas transmigration. La métempsychose ne s'applique qu'à la réincarnation successive des âmes dans ce monde matériel. Or, la question de Conaoui portait sur la palingénésie, non pas dans ce monde, mais dans l'autre. Par conséquent, la réponse des philosophes tombe à côté. D'autre part, l'élévation de l'âme de sa particularité à l'universalité ne correspond pas, contrairement à ce que pourraient penser les philosophes, à un changement substantiel. Si Toussy nie l'universalisation de l'âme, c'est parce qu'il commet une erreur consistant à croire que, en s'unifiant à un intellect universel, l'âme deviendrait autre que ce qu'elle est. Ce n'est pas le propos de Toussy, le propos de Conaoui, pardon. S'universaliser, ce n'est pas devenir autre chose que soi en devenant universel. Et puis, dernier élément de réponse, ou avant-dernier, pardon, la vision de Dieu et des intellects suppose de manière nécessaire et même indispensable ce passage du particulier à l'universel. Et pour cela, Conaoui donne l'exemple de ses maîtres dont il rapporte qu'il leur a entendu dire eux-mêmes qu'ils sont devenus universels en s'unissant aux intellects. Dernier point sur la question du gouvernement multiple simultané. Le gouvernement peut bien n'être pas sans conscience et pour autant être multiple. C'est-à-dire que l'argument de la conscience est insuffisant. Et pour une raison fort simple que je vais éclaircir ensuite. L'argument des philosophes sur lequel être conscient de soi, c'est être conscient de soi comme un, tombe à l'eau. Je vais m'en expliquer ensuite. La question qui est vraiment l'infrastructure théorique qui permet d'expliquer la divergence des positions est cette dernière question fondamentale, la nature du rapport entre l'âme et le corps. J'en reviens à la lecture de la lettre de Conaoui. À supposer que ce lien de l'âme au corps existe, et qui est indiqué par la démonstration théorique, est-ce que ce lien existe de manière à ce que l'âme puisse s'en détacher, ainsi que de tous les autres liens, n'en ayant plus besoin, pour être devenue indépendante par sa perfection acquise? Ou bien doit-il rester un lien quelconque, bien que ce soit le mode d'être de la tribu de séparation, Itlak, qui domine en elle? Est-ce que le détachement de l'âme de toute forme de lien au corps est-ce que, à supposer que ce détachement de l'âme de toute forme de lien au corps soit possible, cela peut arriver selon vous à quelqu'un dans cette condition et en ce monde? Ou bien est-ce que la séparation complète n'a lieu que par ce qu'on appelle la mort? Réponse de Toussy, ça n'a lieu que par ce qu'on appelle la mort. Il n'y a pas de séparation complète en ce monde. C'est là le point de divergence vraiment fondamental. Dans la psychologie de notre mystique d'un côté et de notre philosophe de l'autre. On peut opposer terme à terme les doctrines suivantes. Pour Conaoui, l'âme préexiste au corps. Pour Toussy, elle naît avec le corps. Donc, sur la question de la préexistence ou de la naissance, l'affaire est réglée. Deuxièmement, Pour Konawi, l'âme pré-éternelle est universelle avant son lien au corps. Et elle a le pouvoir de redevenir universelle pendant son lien au corps. Toussy nous dit que toute âme est particulière. L'âme universelle est une parfaite fiction. Ensuite, théorie assez cocasse, l'âme préexistante universelle peut gouverner ses propres parties de corps avant même qu'il ne forme un corps constitué comme un tout. Alors, c'est une thèse qui aurait fait d'une certaine manière les délices de Lacan et Deleuze, c'est-à-dire il y a une conception d'un corps morcelé qui n'est pas un corps sans organes, mais des organes sans corps. L'âme peut gouverner ses parties de corps avant même qu'elle ne fasse un tout organique. Et enfin, pour notre soufi, la liaison comme la déliaison est volontaire, alors qu'elle est naturelle et nécessaire pour le philosophe. Konawi reproche au philosophe, au fond, de ne s'intéresser qu'au cas général qu'il appelle l'habitude, al-ada. Mais évidemment, je crois qu'il y a une incompréhension, c'est-à-dire qu'au fond, Konawi reproche au philosophe de ne tenir compte que de l'âme du commun et de négliger le cas exceptionnel. Mais en vérité, que fait le philosophe sinon étudier l'âme en tant qu'elle a une quiddité universelle et unique en tous les hommes? La distinction que fait Konawi entre l'habituel et l'inhabituel n'a pas de sens. Dire que l'âme humaine, dans la mesure où elle a une même quiddité, a une même nature et une même puissance en tous les hommes. Donc même l'homme au pouvoir exceptionnel doit pouvoir être justiciable d'une explication naturaliste. Voilà pour les positions qui s'affrontent dans la correspondance. Passons maintenant aux positions respectives de nos auteurs dans le reste de leur œuvre. En commençant par Nassir Toussy, notre penseur s'est confronté à la question de la métempsychose de la manière la plus frontale dans son commentaire des Isharad, justement. Voilà qui fait le lien avec notre thèse, dans un contexte très précis. Les commentateurs ont souvent vu le rapport qu'il y a entre la psychologie avicénienne et son eschatologie. Nous y ajoutons une dimension, c'est que tout cela est tributaire aussi de sa théodicée. Le problème auquel se confronte Avicenne est le suivant. C'est la proposition coranique, je cite, « Ma miséricorde s'étend à toute chose, je l'écrirai pour tous ceux qui me craignent. » Sourate 7, verset 156. « Ma miséricorde s'étend à toute chose. » Ça veut dire que tout le monde doit être sauvé. Problème, tout le monde ne mérite pas d'être sauvé. Alors que faire ? D'une certaine manière, aussi bizarre que ça paraisse, pour que le dieu d'Avicenne soit bon, il faut qu'il soit injuste, c'est-à-dire qu'il récompense tout le monde, même ceux qui ne le méritent pas. Et voilà le fameux retour de notre idiot. Comment faire pour que toute la classe des ignorants ne soit pas vouée à l'enfer ? Avicenne les distingue. Même dans l'imperfection, il y a des degrés. Il va distinguer l'idiot pur, al-abla, et puis le débile, darif al-raql. Celui-là seul est voué aux gémonies. Tandis que l'autre est la figure de l'idiot dont nous avons dit tout à l'heure qu'il ne peut pas être puni parce qu'il ne peut rien à sa bêtise. C'est ce que nous avons appelé ailleurs la bêtise providentielle du genre humain. La bêtise fait partie du décret de la prédestination comme un bien, puisqu'elle est le gage que le plus grand bonheur est promis au plus grand nombre. D'ailleurs, je disais bêtise du genre humain, c'était un pléonasme, puisque je rappelle avec Jules Renard, d'après son journal, bêtise humaine, humaine et de trop, il n'y a que les hommes qui soient bêtes. Alors, d'une certaine manière, pour être un peu provocateur, il y a dans cette histoire, selon Avicenne, deux choses dégoûtantes. D'une certaine manière, les goûts canailles de la populace, et puis les promesses cyniques de la révélation. En vérité, si les idiots font pitié à Avicenne, ce n'est pas le cas de Toussy, qui, pour le coup, fait preuve d'un manque de mansuétude et d'indulgence à leur égard qui est criant, c'est-à-dire que Toussy, à l'inverse de son maître, alors qu'il lui est très fidèle en toute autre chose, Toussy, là, ferme la porte du salut au nez et à la barbe, c'est le cas de le dire, des idiots. Alors, quelle forme prend cet argument? D'une dichotomie. Il prend la forme d'une dichotomie qui est la suivante. Soit l'âme des idiots périt, soit elle survit. La thèse selon laquelle l'âme des idiots périt est la thèse qui est attribuée aux anciens en général. Problème, Toussy dit ce n'est pas possible, parce que une âme, même idiote, en tant qu'âme rationnelle, est immatérielle par soi. Et en tant qu'immatérielle par soi, elle survit nécessairement par soi. Donc, l'âme des idiots ne peut pas périr. Reste donc qu'elle survit. Selon quelle modalité? Ou bien l'âme devient la forme d'un nouveau corps, c'est la doctrine de la métempsycose à proprement parler, et Avicenne la réfute pour des raisons qu'on a déjà vues et qui sont assez connues, à savoir la preuve physique de l'adéquation d'une âme et d'un corps, l'argument de la conscience, argument empirique qui n'est pas très solide, mais enfin qui est, pour ainsi dire, l'attestation empirique de la démonstration, et puis l'idée que il doit y avoir égalité numérique des âmes et des corps, faute de quoi Dieu serait obligé de créer des âmes ou des corps sans raison suffisante pour rétablir l'équilibre, ce qui ne se peut. Donc, on voit dans le texte d'Avicenne trois positions s'affronter qui ne sont pas toutes compatibles entre elles, à savoir l'âme des idiots survit, l'âme est la forme du corps, et l'âme ne peut pas se réincarner. De ces trois thèses, il y en a toujours au moins une qui est en trop pour que le système soit cohérent. Toussy, d'une certaine manière, est plus cohérent que son maître en l'occasion, puisqu'il affirme qu'il n'y a pas de métempsycose si on entend par là la transmigration en ce monde. Il n'y a pas de métempsycose si on entend par là la transmigration dans l'autre monde. Et il y a toute chance de croire qu'il n'y a pas non plus de salut imaginal. Alors, je vais. Combien de temps reste-t-il? Je dispose de combien de temps, là, à peu près? D'accord. Bon. Je vais aller très vite. Ce que j'ai cru pouvoir montrer dans ma thèse, c'est que il y a encore un malentendu, mais là, cette fois-ci, dans un jeu qui se joue à trois, entre Avicenne, Khonaoui et Toussy. Pourquoi? L'Avicenne des Isharat a une conception rénovée de l'âme humaine qui lui attribue cinq ou six nouveaux pouvoirs extraordinaires qui sont les suivants. Je vais très vite. L'âme vit dans un corps comme si elle n'en avait pas. Elle connaît en ce monde le bonheur suprême. Elle peut gouverner plusieurs corps à la fois. Elle peut devenir comme une âme du monde. Et elle peut voir l'intelligible sous forme sensible. À quoi j'ajoute même, elle peut se séparer en ce monde par un simple acte de sa volonté. Or, que reconnaît-on dans ces six doctrines, sinon la théorie de Khonaoui lui-même, dans les questions qu'il formule à Toussy? De là, plusieurs hypothèses de lecture. Supposons donc qu'il y a bel et bien une division entre un avicennisme péripatéticien et oriental. Les objections de Khonaoui contre les philosophes ne porteraient que contre l'Avicenne péripatéticien, pas contre l'oriental. À l'inverse, que fait Toussy? Toussy défend Avicenne tout d'une pièce, comme si au fond les Isharat n'avaient pas été un événement philosophique et que Avicenne avait maintenu une unité de doctrine. Il n'y a pas au fond de nouvelle psychologie avicennienne, c'est une fadaise selon Toussy. Enfin, en tout cas, c'est peut-être une stratégie de sa part, mais. Il essaie de sauver l'unité du système avicennien et pour cela, il, d'une certaine manière, il congédie à la fin de son existence toutes les innovations doctrinales du dernier Avicenne. C'est-à-dire que la philosophie de Toussy se résume en gros à l'Avicenne péripatéticien. Maintenant, envisageons la position de Khonaoui dans le reste de ses œuvres. On a vu que la séparation, insilar, s'entend en deux sens. Il y a la séparation par la mort, c'est-à-dire la corruption du visage, comme complexion corporelle, et puis il y a le voyage de l'âme, ou mirlaj, pendant cette vie. Et la doctrine de Khonaoui consiste à dire qu'il n'y a nulle différence de nature entre la mort et le voyage spirituel prophétique. Le voyage, c'est la mort, et réciproquement. Là où Toussy opérait une disjonction, une dichotomie. Quelle forme prend cette séparation par la mort? Il y a d'abord ce que Kodawi, pardon, appelle la renaissance dans l'intermonde, al-Nash'a al-Balzariya, dans laquelle l'âme comparée avec toutes les pensées et actions acquises en ce monde. Selon une formule heureuse de Richard Todd, c'est la dimension psychique de l'âme humaine en ce monde qui comparaît à l'heure du jugement. Et puis il y a une deuxième naissance, la Nash'a al-Istikrariya, la naissance définitive, par laquelle Dieu fait le partage entre ceux qui vont au paradis et ceux à qui l'enfer est destiné. Quelle forme cela prend-il? Dans cette naissance définitive, l'homme parfait devient esprit subtil, devient lumineux et se rapproche de plus en plus de l'intellect immatériel. À l'inverse, celui qui est promis à l'enfer se solidifie, s'opacifie, en d'autres termes, se matérialise. Selon un drôle de retournement en doigt de gant, disons, l'homme parfait connaît un renversement de son intériorité en extériorité et réciproquement. C'est-à-dire que l'âme, qui était la forme de son intériorité en ce monde, devient la forme de son extériorité dans l'autre monde, alors que le corps, qui était l'extériorité, est intériorisé par l'âme et devient contraint en son âme. Ce qui s'extériorise est sa dimension de liberté, tandis que ce qui était sa dimension de contrainte est renfermé en soi-même. Mais cela ne s'arrête pas là. Si l'âme peut connaître, si telles sont les renaissances de l'âme après la mort, l'âme peut aussi connaître les états posthumes dès cette vie. Pour cela, je me réfère au Miftah al-Raïb de Qonawi. Il y aurait quatre voyages que connaît l'âme avant la mort, à savoir le voyage de l'essence, le voyage marnaoui, par lequel l'essence idéale tombe dans l'existence. C'est ce que Qonawi appelle l'ordre de l'être ou la voie de Dieu. Il y a le deuxième voyage, qui est le voyage de composition, Tarkib, par lequel elle tombe dans le monde matériel en se composant substantiellement. Il y a le voyage de décomposition, Tahlil, par laquelle son composé matériel se dissout et par lequel elle revient à Dieu. Et il y a le quatrième voyage, Raoud, le voyage de retour, par lequel, ayant vu les choses divines, elle revient les enseigner dans le monde. Un peu au fond, c'est un peu le lieu commun de la caverne traduit chez notre soufi, à savoir j'ai contemplé les choses divines et je viens les enseigner aux autres hommes. Je vais peut-être conclure pour ne pas déborder abusivement. On a ainsi trois doctrines qui s'opposent et qui résument à peu près toutes les possibilités. Des renaissances pendant la vie et après la mort, c'est Qonawi. Des renaissances après la mort, mais pas pendant la vie, c'est Avicenne. Des renaissances ni avant ni après, c'est Toussi. Il y a bien sûr quelques restrictions. On a vu que selon la compréhension du concept, on peut faire varier l'essence de la métempsychose. Métempsychose en ce monde ne veut pas dire en l'autre monde. On peut faire varier cette conception selon l'extension. La métempsychose n'est pas universellement vraie, mais seulement pour telle catégorie d'hommes, en l'occurrence les ignorants innocents. Et puis, selon la modalité. Elle n'est que vraisemblable, c'est une hypothèse vraisemblable, elle est possible. Ensuite, y croit-il vraiment? Je ne le pense pas, mais sans entrer non plus dans le détail, on a vu que quatre grands types d'arguments s'affrontent sur cette question. Un argument métaphysique et physique qui est celui de l'harmonie, qui implique égalité numérique et adéquation réciproque des âmes et des corps. Un argument qui est d'ordre psychologique, à savoir le principe d'individuation par l'union de l'âme et du corps, l'immatérialité et la survie de l'âme par soi. Un argument eschatologique par le perfectionnement et le progrès de l'âme vers son bonheur. Et un argument théologique Celui de la justice divine par la supériorité de la quantité de bien sur la quantité de mal. Voilà ce qui forme les quatre doctrines indissociables si on veut comprendre l'enjeu de la doctrine de la métempsycose en philosophie. Je note enfin que le dialogue entre le philosophe et le soufi a pour nous un autre intérêt qui est, pour ainsi dire, si j'ose dire, métathéorique, c'est-à-dire que, indépendamment du contenu doctrinal, des arguments, etc., ce que l'on constate, c'est qu'il y avait là l'occasion d'une rencontre entre la philosophie et le soufisme, et que c'est une occasion manquée. Ils n'ont pas saisi cette perche pour se rapprocher. Au contraire, ils s'en servent pour se dissocier davantage. Je note cependant qu'il n'y a pas une indifférence complète de ces systèmes de pensée l'un à l'autre, puisqu'il n'est pas impossible que la manière même de poser les problèmes évolue, y compris chez nos philosophes. Si je m'en réfère à la Hidayat al-Hikma de Athiruddin Abhari, un philosophe contemporain de Nasir Tusi, la Hidayat al-Hikma se termine par une conclusion qui s'appelle « sur les états de l'âme à la renaissance ». Al-Nash'at al-Urla. Donc il s'approprie les termes de la Renaissance et il pose la question en ces termes. Il envisage trois hypothèses. Ou bien l'âme meurt après la mort, ou bien elle se lie à un autre corps par transmigration, ou bien elle continue d'exister sans ce lien. Mais on voit qu'en tout cas, il y a une pénétration de cette question et même des termes dans lesquels elle est posée dans le corpus philosophique. Voilà.